Soudan, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Rabia Mekano pour la présentation. Lancement de la 4e édition de la semaine du paysan au programme des échanges entre les différents acteurs du secteur. Les détails dans un instant. Première pluie dans certains quartiers de la ville de Niamey, les réactions des riverains dans cette édition. En partie magazine de cette édition, nous découvrirons les activités du groupement féminin Haske de Birmingham. Comme annoncé dans les titres, en prélude au lancement de la 4e édition de la Semaine du Paysan, la plateforme paysanne du Niger a organisé un point de presse ce matin à son siège à Niamey. Prévu se tenir du 20 au 23 mai prochain à Margoubéné, région de Dosso, ce salon est l'occasion pour les différents acteurs du secteur d'échanger de connaissances et partager les bonnes pratiques. Des précisions avec Ali Kado, secrétaire général de la plateforme paysanne. Au micro de Hassan Nourou.
L'objectif, en fait, c'est pour que tous les producteurs se retrouvent, tous les représentants des producteurs des 8 régions se retrouvent pour échanger entre eux, que certains enseignent d'autres, puisque d'autres ont des connaissances. Il y a des institutions aussi qui seront associées, qui vont venir nous présenter ce qu'ils font, par exemple la recherche agronomique. Donc ils vont venir échanger avec les paysans pour que aussi les paysans leur disent leur attente. Il y a aussi l'exposition des produits. Il y aura des semences qui seront distribuées par un partenaire à 2000 paysans de la région de Tillabéri et de Dosso. Tous ces aspects-là vont concourir à l'organisation. Cette année, on va l'organiser à Benengaoure, à la Maison du Paysan.
Certains quartiers de Niamey ont enregistré leur première pluie entre hier après-midi et dans la nuit. Un moment de répit tant attendu par les habitants de la capitale. Notre reporter Habiba Ahmed a recueilli quelques avis à la rive droite de Niamey.
Je me suis sentie très bien parce que depuis le mois du carême jusqu'à aujourd'hui, et la chaleur là nous a beaucoup dérangés. On n'arrive même pas à dormir la soirée, et surtout avec les coupures d'électricité là. Mais hier, alhamdoulilah, on a bien dormi.
Il a plu, même si ce n'est pas la pluie tant attendue, mais quand même, on s'est senti bien. C'est un sentiment de grand soulagement, je pense. Et nous pensons à ces moments aux personnes âgées, aux personnes malades, aux enfants particulièrement. Donc nous rendons grâce à Dieu et je pense que c'est un soulagement total pour la population nigérienne et de celle de Niamey en particulier.
Vraiment après une longue chaleur, avec la fraîcheur là, on s'est senti vraiment à l'aise. Et on était débordés avec la chaleur, il y avait les boutons partout et puis les enfants pleuraient chaque jour. Même nous les mamans, si on pouvait, on allait pleurer. Mais grâce à Dieu, avec sa miséricorde, on a pu avoir de la fraîcheur, on a bien dormi.
La Commission nigériane de régulation de l'électricité, dans une note publiée le 3 mai 2024, a ordonné de plafonner l'approvisionnement en électricité de 6% aux clients internationaux du Bénin, du Togo et du Niger. La Commission estime que l'approvisionnement en électricité des clients locaux devrait être prioritaire parce qu'au Nigeria, les coupures de courant se sont aggravées récemment. Cette mesure entrera en vigueur pour une période de 6 mois à partir du 1er mai 2024 et pourra être révisée ultérieurement. Pour rappel, la fourniture électrique du Niger était assurée à près de 70% par le Nigeria avant le coup d'État du 26 juillet 2023. Le ministre des Mines, le commissaire colonel Abarchi Ousmane, séjourne depuis le 2 mai dans la région d'Agadez. À l'étape d'Arlit, il a visité les différents sites miniers et industriels implantés dans la zone. La synthèse avec la secrétaire générale adjointe du ministère des Mines, Madame Yaou Fatimata Orgom. Des propos recueillis par Gungu Mahaman.
Nous avons arrêté de donner le permis d'exploitation minière. Nous allons faire le bilan pour voir à ce jour combien de permis ont été établis. Est-ce que les propriétaires ont respecté les lois minières? Depuis l'arrivée du nouveau ministre des Mines, nous vérifions le cadastre minier pour voir la date de sortie de chaque permis, à qui on l'a attribué, est-ce que le propriétaire l'a utilisé, est-ce qu'il a respecté les normes. Le bilan nous édifiera. Nous allons aussi mettre en œuvre les nouvelles réformes car nous avons constaté que le pays ne gagne pas grand-chose sur les minerais qui regorgent son sous-sol, raison pour laquelle ces nouvelles réformes doivent être appliquées. Ici à Arlette et aux alentours, nous allons recenser tous les détenteurs des permis miniers pour les mettre en règle.
Quittons Agadez pour Dosso, où la brigade fluviale de la gendarmerie de Gaya a saisi de la drogue environ 13 kilos de chanvre indien dans un village de la commune urbaine de Gaya. C'était le dimanche dernier aux environs de 19h lors d'une patrouille nocturne. Les précisions avec l'adjoint-chef Issa Hassoumi, il est au micro de Fadel Alou.
En effet, la mission quotidienne dans la nuit du dimanche vers 19h, les éléments ont aperçu un motocycliste isolé. En se dirigeant vers lui, ce monsieur a brusquement quitté l'endroit. Ça a attiré l'attention des éléments. Ils ont essayé de faire un ratissage sur les lits. Et là, ils ont mis la main sur un sac contenant 13 boules de chambre indienne, soit 13 kilos. C'est au niveau du quartier Kombo. Bon, c'est un endroit où on a vraiment des informations sur le trafic de drogue dans les deux sens de cette rive. Mais c'est pour la première fois qu'on a eu à mettre la main sur cette quantité de drogue. Ça aurait été que on a une ferme collaboration, le résultat allait être plus important. Et maintenant, il n'est pas tard. Nous tendons toujours la main vers la population pour qu'elle puisse collaborer avec nous. Et ça va nous permettre vraiment de lutter efficacement contre le trafic de drogue de tout genre.
Le dimanche dernier, une citerne venue de Zinder à destination de Niamey a pris feu à l'entrée de la ville de Balayara. La citerne a pris feu suite à l'éclatement d'un des pneus, selon l'adjoint-chef Abdoul Nasser Aboubakar de la protection civile de Balayara. Il est au micro de Seydi Abdou Winditan.
C'est une citerne de 60 000 litres transportant un flux lourd. La citerne est en provenance de Zinder. À l'entrée de Balayara a pris feu à côté du poste de police de Balayara. Une fois informés, nous nous sommes transportés sur le lieu du sinistre et nous avions trouvé les flammes. Sur place, nous avons fait un cordon de sécurité afin d'éviter le pire. Les 18 roues de la citerne sont parties en fumée, mais les occupants du véhicule sont sortis indemnes. La difficulté qu'on avait eue, c'était le jour du marché de Balayara. La circulation est dense, la chaussée est occupée par les marchandises, les charrettes, les voitures et les taxis motos. L'appel que je lance, il faut que les gens puissent comprendre une chose. La route est destinée aux véhicules, les piétons ont leur passage, mais malheureusement, ils ne veulent pas l'emprunter. Au moment de l'incendie, les effets à côté ont pris feu. C'est ça même qui a aggravé les choses. Il y a des règles fixées par le code de la route. On doit les respecter.
Parlons technologie, dans cette édition, l'utilisation des drones au Niger connaît une évolution significative selon un responsable technique d'une entreprise de prestation par drone. Ces appareils sont utiles dans plusieurs domaines, mais est-ce que leur utilisation est réglementée? Élément de réponse avec Maman Adamou Alassane, un spécialiste, au micro de Samira Rouafi.
Le drone, ces appareils sans pilote sont de plus en plus intégrés dans divers secteurs, allant de l'agriculture à la surveillance en passant par la cartographie et sur la prise de vue aérienne. Sans oublier dans le domaine multimédia, la presse également, le drone est très souvent utilisé. Le Niger a mis en place les lois pour encadrer l'utilisation de drones. La réglementation est disponible auprès de l'ANAC, l'Agence nationale de l'aviation civile. Ces réglementations visent en fait à assurer la sécurité des opérations aériennes et la protection de la vie privée. Ça définit également les zones où les drones peuvent être utilisés ainsi que l'altitude autorisée pour faire les vols et les procédures à suivre également pour obtenir les autorisations nécessaires.
Nous l'annoncions dans l'édition d'hier, le début des épreuves du brevet sportif session 2024 sur toute l'étendue du territoire national. Aujourd'hui, notre reporter s'est rendu dans un centre à Niamey pour s'enquérir des conditions d'exécution des épreuves en cette période de forte chaleur. Quelques dispositions ont été prises, explique Madame Mohamed Hapsatou Morkabaye, présidente du centre CEG5 de Niamey. Elle est au micro de Salamatou Kadri.
On avait le matériel, tout était en place. Il y avait la sécurité, il y avait la Croix-Rouge. Les élèves étaient là. On a débuté vers 7h, pouvoir finir vers 10h, 11h moins. On a commencé un peu tôt pour éviter la chaleur, parce qu'il faisait vraiment chaud. À 8h déjà, ça chauffait. Donc on a commencé à 7h pour pouvoir finir à 11h moins. Et quand même, on a pu évacuer tous les élèves, ils ont tous pu passer sans problème parce qu'on a pris les dispositions nécessaires pour éviter la chaleur. D'habitude, nous commençons avec la vitesse qui est une course. Il faut faire la course dans la fraîcheur pour éviter les lésions et autres. Donc après la course, les professeurs se dirigent vers les autres ateliers d'où nous avons le lancer de poids, nous avons le saut en hauteur, le saut en longueur et la gymnastique.
Parlons toujours du brevet sportif. Dans la région de Diffa, ce sont plus de 2700 candidats qui affrontent les épreuves physiques et sportives du BEPC. Parmi eux, 108 candidats inaptes pour passer ces épreuves sportives. Néanmoins, ils vont passer les épreuves écrites, indique Hassan Fantagana, chef service sport scolaire de la région de Diffa. Il est au micro de Habibou Garba.
Nous sommes au niveau du stade régional où nous avons deux jurys. Il y a un jury qui a 595 candidats et un autre jury qui a 581 candidats. Nous avons les candidats dispensés et sur l'autorisation des médecins, il y a certains candidats malheureusement qui ne peuvent pas faire ces épreuves pratiques. Donc ils font passer les épreuves orales. Donc à chaque fois quand un établissement passe, c'est le même jour également que ces dispensés sont évalués. Donc nous avons là aussi mis une équipe de trois enseignants pour chaque jury qui font passer les candidats à des épreuves orales afin de les évaluer. Toutes les conditions sont là. Nous avons la sécurité depuis qu'on a commencé et nous avons une ambulance plus une équipe médicale qui est là avec nous jusqu'à faire ces cinq jours de ces examens.
Les activités génératrices de revenus font partie des voies pour l'autonomisation de la femme. Dans le département de Birnigoni, région d'Ottawa, le groupement des femmes Haske aide les autres femmes à entreprendre. Notre correspondant Haruna Ibrahim s'est approché de cette organisation féminine qui contribue au développement communautaire.
Dans la ville de Birnigoni, beaucoup de femmes contribuent au développement de leur communauté. Certaines sont devenues des exemples à suivre grâce à leur action pour motiver leurs sœurs à entreprendre, selon Hadjia Oumou Ali, présidente du groupement Haske.
L'association apporte son aide à tout le monde, par exemple lors des cérémonies, en cas de maladie. Nous avons également fait des dons de table au district sanitaire, des nattes également. Quand il y a un besoin, nous contribuons à travers la caisse. Il y a des femmes à qui nous donnons également des sacs de vivres pour vendre et garder les bénéfices. Et si la mesure est vendue à 500 francs, nous la vendons à 400 francs.
Grâce à l'appui de certaines organisations nationales et internationales, le groupement des femmes de Koné s'est développé et s'est spécialisé notamment dans le domaine agricole, explique Hajia Oumou.
Des spécialistes maraîchers nous ont approchés pour des formations, ce que nous avons bien évidemment accepté. Ils ont expliqué qu'on pourrait épargner pour des projets futurs plutôt que de dépenser au jour le jour. Et le projet Adali nous a proposé de l'aide. Nous sommes allés donc à la rencontre du roi qui nous a demandé de choisir un espace entre trois terrains qu'il nous a proposés. Ils ont pris en main notre dossier, puis nous ont construit un magasin et un équipement de bureau. Et ils nous ont finalement appuyés avec la somme de 18 millions de francs CFA.
C'est ainsi qu'Erikia Baraji, l'une des membres de cette organisation féminine, parle de ce dont elle a bénéficié.
Nous avons vraiment tiré bénéfice de cette formation, car elle a éveillé notre conscience. Aujourd'hui, nous sommes les premiers à être sollicités dans toute la ville de Koni et ses environnants quand il s'agit de se référer à celles qui ont bénéficié de la formation.
À la ville de Birnigoni également, le groupement Haske apporte sa contribution pour le bien-être de tous, des jeunes et même des plus âgés.
Quand nous avons mis en place cette organisation Haske, c'était dans le but d'aider la communauté, notre communauté. Ce n'est pas avec de l'argent seulement qu'on peut développer une commune. Vous pouvez apporter votre aide qui sera appréciée de tous. Haske fait des salubrités. Nous avons des comités tels que celui des achats de vivres, de la vente, d'inquiéteurs, un comptable et un gardien. Nous avons aussi un NIF. Nous sommes au nombre de 40 dans l'organisation, dont 23 personnes âgées et 17 jeunes.
Point final de cette édition, je vous laisse en compagnie de Habiba Ahmed pour le journal en tamashek. Très bonne suite de programme.